Kiff.
Oh, kiff.
Oh oui, kiff.
Kiff.
Kiff le mag.
Kiff, le magazine grand kiff.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, re-bienvenue pour ceux qui nous suivent depuis ce matin, parce que je sais qu'il y en a des auditeurs qui nous ont suivis au premier Kiff Mag, au deuxième Kiff Mag. Eh bien, on est heureux d'être ensemble et nous avons retrouvé ce soir notre animateur en chef, Jonas. Salut Jonas.
Salut Pascal, salut à toutes, salut à tous. Ravi,
bonjour Jonas.
Extrêmement ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée, vous, au grand kiff, parce que moi, j'ai pas pu suivre tout cela, mais j'espère que vous avez passé une excellente journée.
Ouais, ben on va en discuter avec quelques-uns de nos invités. Et donc, ce soir, eh ben, on va recevoir deux invités. Deux fois deux invités, je vais y arriver. Donc, on va commencer avec des membres de l'organisation, d'une certaine manière, un territoire qui a travaillé donc sur le territoire handicap, si je ne dis pas de bêtises. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons des membres de l'association ACAT. Donc, un programme sympa. Donc, oui, c'était une bonne journée. Je peux vous dire que si vous entendez des cris d'ailleurs, il n'y a rien, ne prenez pas peur. Il n'y a aucun souci, c'est juste que nos jeunes sont en train de vivre un grand jeu par village. J'ai pas encore tout compris le principe du jeu, mais ils achètent des bons points et ils vendent des choses. Il faudra qu'on arrive à élucider ce mystère, mais on va y arriver.
Bah oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Eh bien écoute Pascal, je te propose qu'on y aille, c'est parti.
On est parti. Eh bien, on va recevoir notre invité. Du coup, il devait être deux, mais sa coéquipière a dû être pris. Vous savez, au grand kiff, quand on se déplace, on sait quand on démarre, on sait jamais quand on arrive. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'interpelle, qui dit « Tiens, j'ai quelque chose à te demander. Oh, je voudrais partager ça avec toi. » Donc, Isabelle, pour ne pas la nommer, devrait nous rejoindre. Mais bon, elle nous rejoindra en cours de route. Mais nous avons avec nous Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Je suis ravi d'être au micro ce soir avec vous.
Eh bien, on est ravi de te recevoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, voilà, comment...
Voilà, bah oui, bah alors je m'appelle Thierry Richoualet, je viens de Nantes. Alors professionnellement, moi je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap dans un lycée, et c'est à ce titre que je viens ici, c'est-à-dire c'est avec ce lien avec le handicap. Donc je travaille dans ce qu'on appelle le territoire handicap, qui est une partie de l'organisation. Alors l'organisation, c'est un grand ensemble avec un organigramme. Bon, enfin voilà, nous sommes une partie de cette organisation. Et notre objectif depuis déjà un petit moment, puisque comme vous le savez, le grand kiff a été remis, c'est de tout faire pour que les jeunes en situation de handicap soient accueillis le mieux possible sur ce site d'Albi.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire quel a été le travail que vous avez pu faire en amont ? Parce que je sais que vous travaillez depuis des mois sur cet accueil, sur la réflexion. Je sais qu'il y a une réflexion très profonde qui a été faite, des innovations aussi qui ont été faites sur le Grand Kiff par rapport aux autres Grand Kiff. Est-ce que tu peux un peu déjà nous dire en amont et on va dire après ce qui se passe sur le Grand Kiff ?
Bien sûr. Alors, on a travaillé sur deux aspects. Donc, sur un questionnaire pour bien cerner les attentes des jeunes en situation de handicap qui voulaient venir, avec différentes thématiques, j'y reviendrai peut-être après. Et on a aussi travaillé sur le visuel. Notre objectif, c'était vraiment de faire que dans le camp, qu'on soit en situation de handicap ou non, la signalétique, grâce à des pictogrammes, soit la plus claire possible. Pour dire les choses d'une façon directe, l'objectif c'est de ne pas se poser la question, c'est-à-dire que dès qu'on voit l'image, par exemple, je ne sais pas, il y a une flèche avec un pictogramme qui indique qu'on mange, bon, bah, c'est pour orienter vers la cantine. Voilà, ça c'était, on a réfléchi à ça, on est parti de bases de données, on a parfois un petit peu inventé ou réaménagé ces pictogrammes. Et puis donc le deuxième aspect, voilà, c'est le questionnaire. Le questionnaire, c'est un outil très, très fin, je dirais. Enfin, en tout cas, on a essayé qu'il le soit, pour que l'objectif, c'était vraiment, dans la mesure du possible, d'essayer de penser à toutes les situations possibles. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein. On ne peut pas penser à tout, mais voilà, à travers différentes thématiques. Alors je vais vous donner un petit exemple, donc voilà, j'y arrive. Par exemple, ça peut être les gestes de la vie quotidienne. On marque, je me répère dans le temps. Oui, non, préciser. Même question, je me répère dans l'espace. Oui, non, j'ai conscience du danger. Pareil, même réponse. Toutes ces réponses nous permettaient de cerner les besoins, véritablement, tout ce qu'on pouvait surtout mettre en place de façon à ce que les jeunes ici en situation de handicap, je rappelle que le handicap, c'est, il y a la partie visible, la partie invisible. La partie invisible est beaucoup plus présente, puisque 80% des handicaps sont invisibles. Et donc, à travers ce questionnaire, les jeunes qu'ils remplissaient avec leur famille, avec aussi le directeur des camps, avant de nous transmettre ces documents, ça leur permettait véritablement, au plus près possible de leurs besoins, de noter tout ce qu'il leur fallait, toutes les conditions de vie, l'aide humaine, matérielle. Voilà, en quelques mots, l'objectif de ce questionnaire.
Donc, en gros, vous avez créé un questionnaire que vous remettiez aux jeunes porteurs d'un handicap et qui, eux, après, transmettaient aux directeurs du camp dans lequel ils étaient intégrés, parce que bon, c'est des camps qui sont venus au Grand Kiff. Et donc, vous avez préparé l'outil pour que dans chaque camp, les directeurs de camp puissent être vraiment équipés pour pouvoir accompagner ces jeunes et les accueillir
Absolument.
Dans les meilleures conditions.
Et l'objectif, bien sûr, c'était avec ces retours de questionnaire de pouvoir accueillir un maximum de jeunes en situation de handicap. Bon, on était conscient qu'on ne pourrait peut-être pas tous les accueillir. Il peut y avoir vraiment des pathologies assez lourdes. Mais en tout cas, on voulait se donner un maximum de chances de pouvoir les accueillir. Et cet outil était particulièrement pertinent pour cela.
Et justement, sur cet accueil des jeunes en situation de handicap, quel est le retour? Combien est-ce que vous avez un petit peu de jeunes en situation de handicap qui sont là au Grand Kiff? Est-ce que vous savez à peu près
Alors, bonne
le nombre
question.
Et comment ça a été utile?
Alors, je fais un tout petit préambule. Je n'ai pas besoin de rappeler que nous sommes actuellement dans un contexte très particulier. Donc, je pense, une opinion personnelle, mais que le contexte qui était quand même anxiogène et difficile quand même, pour les jeunes en situation de handicap, on n'a pas eu directement de réponse à ces questionnaires. Alors, ce n'est pas catastrophique, hein. Ça veut dire à mon avis seulement que je pense que c'était difficile cette année, c'était difficile de venir pour certains jeunes qui ont dû en parler avec leurs parents, leurs familles, et qui n'ont pas osé venir. C'est mon interprétation à moi. Alors attention, ça ne veut pas dire que le handicap, c'est un mot très large, si je puis dire. Ça inclut beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, j'ai vu des jeunes ou des encadrants qui étaient eux-mêmes en situation de handicap. Alors, je parle bien sûr de handicap visible. Et puis, il y a aussi tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Alors, voilà, c'est pas des choses qui vous empêchent de vivre au quotidien, surtout dans un camp, mais ça peut poser parfois quelques petites difficultés.
Et justement, vu qu'on a parlé de ce questionnaire, donc maintenant les jeunes sont ici, je sais que vous avez mis en place des outils dans le camp. Alors, tu dis que vous n'avez pas eu de retour direct. Moi, j'ai eu des retours indirects.
Indirects, oui.
Des gens qui m'ont dit, j'ai vu ça, je ne vais pas dire quoi, mais tu vas nous expliquer. J'ai vu telle affiche. Et même moi, ça m'a aidé. Alors, ils n'ont pas déclaré qu'ils étaient dans une situation de handicap, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a un peu partout, là?
Ce sont des pictogrammes. Ce sont du langage visuel, exclusivement visuel, qui, comme je le disais au début, doivent être compréhensibles par tous. Pas de mots, donc n'importe qui, on n'a pas besoin de même d'avoir une culture, je dirais, française, européenne. C'est un langage qui parle à tout le monde. Alors on a réfléchi, comme je le disais il y a un instant, on a repris parfois certaines idées, on en a développé d'autres. On s'est vraiment efforcé de se mettre à la place des jeunes ou des personnes participant au Grand Kiff qui étaient amenées à se déplacer sur tout ce territoire du Grand Kiff d'Albi, qui est quand même assez grand, qui est pas évident quand on arrive, on a un petit peu de mal à se repérer, même si c'est pas si difficile. Donc on a essayé vraiment de faire que les déplacements soient fluides. Et puis on tient compte aussi des retours, des remarques qu'on nous fait pour améliorer la signalisation. Donc on signale bien sûr les bâtiments, j'ai parlé tout à l'heure de la cantine, ça peut être bien sûr l'infirmerie, les lieux de rassemblement, en cas notamment d'évacuation, les grands déplacements, je dirais, entre la partie où sont les tentes et les lieux de rendez-vous où on se tient au courant de toutes les activités de la journée.
D'accord. Jonas, tu veux réagir ?
Et concernant les activités que les jeunes sont amenés à faire durant tout ce grand kiff, comment est-ce que vous avez pu adapter ou faire adapter ces activités ? Est-ce que ça a été quelque chose de facile, de difficile auprès des organisateurs de ces activités ? Comment ça s'est passé ?
Est-ce qu'il y a eu un travail de fait avec les différents pôles à ce niveau-là ?
Alors, c'est en fait les directeurs de camp qui pouvaient nous contacter. Nous, on était bien sûr à leur disposition. Donc, on a réfléchi bien sûr à adapter les activités. Alors, je vais prendre un exemple. On organise un jeu avec un jeune qui est en fauteuil roulant. Il faut que dans ce jeu, lui il a une vision qui est plus basse, si je puis dire, que quelqu'un qui est debout. Il faut en tenir compte. Si par exemple on doit se mettre debout à plusieurs pour écouter des consignes qui sont données par un tiers, on doit tenir compte du fait que le jeune en situation de handicap doit être placé devant le groupe. On pense aussi à des choses comme si des consignes lui sont données, on va essayer, c'est quelque chose que je fais souvent, encore une fois pour l'exemple d'un jeune en situation de handicap, on va se mettre à sa hauteur, au sens propre du terme, c'est-à-dire que moi je vais me mettre à genoux, hein, pour en tout cas m'abaisser, si je puis dire, pour pouvoir communiquer avec lui, à hauteur d'yeux, à hauteur de d'hommes, je dirais, mais assis. Donc on prévoyait des fois aussi des chaises ou des choses comme ça, des possibilités pour ne pas que le jeune en situation de handicap se sente exclu sur cette activité. Alors, en parlant d'activité, ce qu'on fait aussi, c'est qu'avec la fondation John Boss, donc qui est présente ici, nous organisons des ateliers. Alors, on a commencé hier soir. Alors, ce sont des jeux de sensibilisation au handicap. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a une grande bâche qui doit faire 5 mètres sur 4, quelque chose comme ça. C'est sur le principe des mots mêlés. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un jeu que l'on fait parfois, qu'on trouve dans les journaux, et avec son crayon, on biffe quelques lettres dans un sens horizontal, vertical. Et là, ce sont des mots qui ont tous un rapport avec le handicap. Alors, on n'a pas un stylo géant, bien sûr, pour biffer les cases, mais on invite les jeunes à trouver bien sûr ces mots sur cette grande grille géante, comme un peu une grille de mots croisés, et ils vont se placer sur les différentes lettres pour marquer le fait qu'ils l'ont trouvé sur la grille, et après, donc on va le faire plusieurs fois, plusieurs mots, il va y avoir un tirage au sort, et à la fin, on va surtout, parce que c'est l'objectif, expliciter ces mots. Alors certains qu'ils connaissent, hein, et d'autres qu'ils découvrent. Voilà un exemple d'activité que l'on fait donc sur ce site de Grand Kiff. On va à la rencontre des jeunes dans les camps.
Ouais, j'ai vu d'ailleurs aussi passer régulièrement des petits chariots là.
Oui, alors ça c'est notre matériel. Ah là c'est on a la chance, oui, effectivement, d'avoir, alors on a des alors on a, par exemple, dans le matériel que l'on montre, le matériel qui est utilisé par les personnes en situation de handicap, on a une joëlette. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qu'une joëlette ? Alors, c'est un siège avec qui ressemblerait un petit peu à un fauteuil roulant, mais amélioré. Il y a d'abord une première partie devant la partie où le jeune ou l'adulte est assis, où on peut mettre un harnais autour de sa taille. Donc il y a une première personne qui va être le début de l'attelage, si je puis dire, et une personne derrière qui va pousser avec des poignées. C'est en fait un outil, un véhicule, je peux même dire entre guillemets, qui permet de marcher, de randonner, d'aller même en montagne. C'est assez extraordinaire. Le jeune qui n'a pas la possibilité de marcher, eh ben on peut l'emmener. Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bien sûr, il y a des réglages dessus assez fins. Et c'est souvent un matériel qui interpelle, hein, souvent les jeunes. Alors, on invite les jeunes du Grand Kif à essayer ce matériel. Hein, donc, certains s'assiedent, certains tirent ou poussent. On a aussi des fauteuils roulants plus classiques.
Pour imaginer la Joëlette, ça me fait penser, moi, à la chaise porteur.
Tout à fait.
Une personne devant, pour que nos auditeurs puissent vraiment l'imaginer, une personne devant, une personne derrière, sauf que vous n'avez pas besoin de porter avec les bras.
Voilà la bonne image.
Vous n'avez pas besoin de porter avec les bras parce qu'il y a une roue ou une ou deux roues. Là, j'ai vu que les vôtres avaient deux roues.
Absolument, c'est ça.
Dessous qui permettent de rouler, mais ça permet de passer de partout, quoi.
Voilà, alors nous, on utilise deux roues, hein, mais il y a même des joëlettes qui participent à des compétitions, à des courses. Là, il n'y a qu'une seule roue et ça va encore plus vite. C'est des matériaux à la fois solides et très légers. Et ça, c'est assez étonnant. On peut aller vite et dans toute sécurité.
Tout à fait. Excuse-moi, d'un coup, je t'ai coupé. Je te laisse
continuer. Pas du tout. Non, parce que ton image était bien plus parlante que la mienne.
Mais j'essaye d'imager pour nos auditeurs qui, eux, ne voient pas.
Absolument.
Nous, on les voit.
Non, tu as bien fait d'intervenir, au contraire.
Donc, tu parlais aussi que vous aviez des fauteuils.
Alors, voilà. Des fauteuils. Voilà, on a des fauteuils. On a un jeu aussi qui est un jeu de cartes, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stop aux insultes. Alors, qu'est-ce que c'est Stop aux insultes? Quand on s'exprime, quand on parle du handicap parfois, je vais employer par exemple le mot débile, un mot qu'on emploie très peu maintenant, il est employé d'une façon péjorative. Donc, ces mots, même handicapés, schizo, des mots comme ça, sont devenus parfois, malheureusement, des mots péjoratifs. Et on essaye d'expliquer d'abord leur origine, et puis que ce sont des insultes. Ils sont employés d'une façon péjorative, je dirais presque méchante, en tout cas désagréable. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont une réalité. Alors je vais prendre un autre exemple. Dans les termes, on l'a entendu quelques fois, même employé par des hommes politiques, qui disaient « vous êtes autiste », tout ça pour dire « vous ne comprenez pas » ou « vous êtes sourd à ce qu'on vous dit ». Ben, l'autisme, c'est malheureusement une maladie. C'est une maladie grave qui affecte beaucoup de personnes. Et ce n'est pas du tout une insulte. Voilà. En plus, c'est complètement réducteur. Donc on essaye de sensibiliser au vocabulaire, pour expliquer qu'il y a des mots qui ont un sens et que ce sont surtout, mais surtout pas, des injures.
On voit du coup tout le travail que vous avez fait. Mmh. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du thème du Grand Kif, c'est la Terre en partage. Comment est-ce que toi, tu vois ce thème par rapport justement au handicap et à l'accueil de l'autre? Est-ce que c'est quelque chose, une mise en perspective qui est en plus intéressante quand on vient du territoire handicap?
Oui, parce que la terre en partage, ça signifie quoi? Ça signifie partager, c'est être ensemble, ça sous-entend une fraternité, ça induit donc l'altérité, l'autre, le rapport à l'autre. Et dans ce paysage, nous trouvons les personnes en situation de handicap qui ont justement du mal parfois, je dirais, à occuper l'espace, à être visible et à ne pas être ramené à leur handicap. Hein, là, je parle de handicap surtout visible. On ne se définit pas par son handicap. On est ce que l'on est avec sa personnalité, ses qualités, ses défauts, entre guillemets. Donc, je pense que la place particulière des jeunes, puisque là on parle des jeunes particulièrement, en situation de handicap, c'est très important effectivement sur notre planète, dans le vivre ensemble. C'est pas toujours facile, malheureusement, on le sait bien, hein, on fait tout, en tout cas on s'efforce de que la société soit plus inclusive. Elle l'est, c'est vrai, on progresse, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut que tout le monde puisse trouver sa place en restant soi-même, en ayant chacun ses particularités et en se respectant tous.
Du coup, je rebondis là sur ce que tu dis. Le thème d'aujourd'hui, c'est « je suis ».
Oui.
Est-ce que des fois, on n'enferme pas la personne porteur d'un handicap en étant je suis handicapé. Même la société l'oblige à dire montre-moi ta carte d'inclusion, totalement. Montre-moi ta carte de stationnement. Et justement, on est dans cette discussion de je suis et la personne, elle est avant tout personne, elle est avant tout être, et avant d'être handicapé, avant d'être tel ou tel syndrome. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, c'est ce que je disais il y a un instant. On est soi-même avant tout. Malheureusement, trop souvent, effectivement, on est défini ou par son handicap. Je pense, j'ai l'exemple moi d'une personne en situation de handicap qui veut se garer, qui doit avoir un petit pictogramme, une petite carte sur le pare-brise de sa voiture pour bien attester qu'il est en situation de handicap. Et ça, c'est sûr que ça doit être difficile parfois à vivre au quotidien. Cette espèce de représentation. C'est certain. Oui.
Alors, pendant qu'on parle, Isabelle nous rejoint. Voilà. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, on est en direct sur EJR Radio. Merci de nous avoir rejoints.
Avec plaisir.
Donc, nous avons avec nous Jonas qui est à Rouen, qui co-anime cette émission. Donc, on a commencé à 18h avec Thierry. Et on est heureux de pouvoir t'accueillir.
Merci.
Alors, je vais en profiter justement que tu arrives. Toi, tu fais partie de la fondation Jeune Bost.
Oui.
Donc, je dérive un petit peu, mais on reste dans notre cadre du handicap. On a parlé du territoire handicap avec Thierry avant que tu arrives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la Fondation Jeune Bost et qu'est-ce que tu y fais, qu'est-ce que vous y faites ?
Oui, alors c'est une très vieille dame qui est née en 1848 dans le petit village de La Force en Dordogne, à l'initiative d'un pasteur, ou plutôt, j'aime bien dire, à l'initiative des familles qui ont posé devant sa porte des jeunes filles en situation de handicap qu'il a accueillies. À la mort de ce pasteur, 9 établissements avaient été construits par les gens du village, dans ce village de La Force. Aujourd'hui, la Fondation de Jeune Bost, ce sont 34 établissements et services répartis entre Le Havre, Rouen, la région parisienne, Limoges, la Dordogne, centre historique, Montauban, Bordeaux, Pau et Bayonne, avec des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ou de maladie psychique ou de handicap mental.
D'accord. Et donc, c'est des personnes de tout âge, c'est des personnes...
Alors, principalement des adultes, des enfants dans quelques établissements en région parisienne, des enfants en situation de trouble autistique.
D'accord. Et toi, dans la Fondation Jeune Bost, tu...
Alors moi, je suis l'un des 4 pasteurs qui assure l'accompagnement spirituel et l'aumônerie auprès des patients et résidents, qui assure aussi la formation des professionnels sur toutes les choses qui concernent le domaine de l'accompagnement spirituel, de l'accompagnement de la fin de vie. J'ai aussi une charge de création d'outils et du coup, je suis régulièrement celle qui va porter la fondation à l'extérieur dans des événements comme le Grand Kiff.
Comme le Grand Kiff. Du coup, j'avais une question pour tous les deux. Donc, avant que tu arrives, on a présenté un peu tout ce que votre territoire a travaillé, la réflexion sur le questionnaire avant, les pictogrammes, tout ce qui a été mis en place, l'adaptation. Ma question, parce qu'on va devoir après accueillir le deuxième groupe, c'est qu'est-ce que vous pensez que le travail qui a été fait, cette réflexion, comment elle peut être portée dans la continuité pour notre Église ? Comment on peut réutiliser ces outils, ce gros travail énorme qui a été fait ? J'ai pu suivre de très près cela. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut continuer de ce travail et porter cela dans l'Église et peut-être le partager ?
Je ne sais pas toi Thierry, mais moi je suis pleine d'espoir parce qu'on a rencontré toute la journée des jeunes très 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 sensibilisés à la question de l'inclusion des personnes avec handicap dans la vie de tous les jours, celle de leur lycée, celle de leur groupe de jeunes, celle de leurs églises. Donc des jeunes avec des questions précises, des étoiles dans les yeux et des petits projets et des rêves. Donc je pense que maintenant, charge à nous, l'équipe du territoire handicap et puis peut-être avec le soutien du réseau famille, handicap et église inclusive, de faire que nos outils imaginés pour ce grand kiff puissent servir, être distribués, qu'on puisse les faire connaître et qu'on puisse accompagner des animateurs de groupes de jeunes dans le fait d'oser dire et vivre l'accueil de tous dans leur groupe. Ouais, je suis pleine d'espoir. Je trouve que cet après-midi là m'a donné vraiment plein d'ouverture sur des possibles.
Super. Jonas ?
C'est vrai que moi je vais rebondir sur cette question, Pascal, parce que sur EJR Radio, on a fait un débatton sur le handicap il y a quelques mois, et on avait discuté avec justement des familles qui étaient touchées par le handicap et qui nous disaient justement que ce serait bien qu'il y ait une réflexion profonde de notre église sur le handicap, sur l'accueil des personnes en situation de handicap. On s'était même posé la question s'il ne fallait pas que l'Église lance un label handicap comme on a pu le faire pour Église Verte. Qu'est-ce que vous en pensez un peu ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien dans nos églises après ce grand kiff pour accueillir et permettre à tous d'être accueillis dans nos églises ?
Parce que souvent dans nos églises, on parle d'adapter nos locaux, mais en fait, ce n'est pas que ça.
Ouais.
Il y a ça, mais il n'y a pas que ça.
Non, là, on vit les cultes du matin, par exemple, avec, en plus des paroles des chants sur l'écran, des petits dessins qui racontent là où on en est du culte. C'est des outils particulièrement adaptés pour les gens avec des troubles de l'attention, des déficiences mentales ou parfois de l'autisme. Le culte avance de dessin en petits dessins. Tout un tas d'outils comme ça qui, suite à ce grand kiff, parce qu'ils ont été vus et utilisés par de plus en plus de gens, vont faire leur bout de chemin.
Bien sûr.
Et les membres du réseau famille, handicap et église inclusive vont voilà, c'est leur job de faire que de plus en plus d'églises aient connaissance et osent utiliser ces outils. On va s'appuyer, bien sûr, et on est en train déjà, en tout cas moi je suis déjà en train de prendre des rendez-vous là, au grand kiff, avec des pasteurs et des accompagnateurs de groupe qui me disent « Ah, quand est-ce que tu viens dans notre église pour nous re-raconter tout ça ?» Je crois vraiment beaucoup, beaucoup à la rencontre humaine. Le jour où on va dans une église locale pour faire vivre tel ou tel outil, à la fin du culte, il y a forcément 2-3 familles qui viennent nous dire « Ah ben, ça rencontre notre problématique, ça rencontre mon histoire, comment on peut faire ?» Voilà. Donc on va prendre notre petit bâton de pèlerin et aller revisiter toutes les églises dont les jeunes sont là actuellement.
Et on est plein d'espoir. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de vous réinviter dans une émission peut-être un peu plus longue à la radio pour continuer de vous accompagner dans ce superbe travail.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Et merci beaucoup.
Merci.
En tout cas, un bon grand kiff. Continuer
ouais,
de porter
très bien
auprès de ces jeunes paroles, et c'est beau. Et donc hier, aujourd'hui c'était Je suis, demain ça sera avec les autres dans ce monde, et on est vraiment dans un très beau message. Merci beaucoup. Pour nos auditeurs, on fait une courte pause musicale et on se retrouve avec Jonas et nos deuxièmes invités juste après. À tout de suite.
À tout de suite.
J'ai passé tant de fois les images dans ma tête de la première fois, du premier tête à tête. Quels seraient tes mots, toucheraient-ils mon cœur? Quels seraient mes gestes pour apaiser tes peurs? Accroché à ma terre, les yeux levés vers le ciel, je cherche la lumière à rallumer le soleil. Accroché à ma terre, je cherche la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent, mais des montagnes de sentiments. Que fais-tu chaque soir? Aimes-tu rêvasser? Que fais-tu chaque matin? Plutôt thé ou café? Tu vois, je pense à toi et j'ai dressé la liste de tous les beaux endroits que j'aimerais qu'on visite. Accroché à ma terre, les yeux levés vers le ciel, je cherche la lumière. À rallumer le soleil, accroché à ma terre. J'ai trouvé la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent, mais des montagnes de sentiments. Cherche la lumière, à rallumer le soleil, accroché à ma terre. J'ai trouvé la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent, mais des montagnes de sentiments.
Kiff,
kiff.
Kiff.
Oh,
kiff.
Oh oui, kiff.
Kiff.
Kiff le mag.
Kiff, le magazine grand kiff.
On est toujours en direct de Albi pour le grand kiff. Donc vous vivez avec nous ce super moment. Et nous avons donc deux membres d'un partenaire qui viennent d'arriver. Colette et Thomas. Voilà. Et ben, ce que je vais faire, je vais d'abord vous demander un peu de vous présenter, de nous dire d'où vous venez, puis on va parler après de vos engagements. Colette.
Alors moi, j'arrive de Corrèze, Brive-la-Gaillarde.
D'accord. Et Thomas.
Moi, de Strasbourg, où je suis enseignant d'électricité.
D'accord. Donc vous êtes tous les deux d'un autre bout de la région. Et donc vous êtes tous les deux membres de l'ACAT. Je connais l'ACAT, mais je ne sais pas si c'est une association, c'est une fondation, c'est... Qu'est-ce que...
C'est une association, mais le A de ACAT, c'est l'action.
Action.
Des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et on insiste bien sur le fait que nous agissons en tant que chrétiens pour abolir la torture, la peine de mort et les traitements et la lutte des victimes.
D'accord.
La protection des victimes.
Alors, est-ce que pour nos auditeurs, si vous le savez, vous pouvez un peu nous dire l'histoire de cette association, depuis quand elle existe
Alors, elle existe depuis 1974. Oui. C'est deux femmes qui ont entendu un témoignage sur ce qui se passait au Vietnam à ce moment-là, sur des tortures, et donc elles se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et quand elles ont réuni leurs amis qui étaient catholiques, protestants, orthodoxes. Et donc, en fait, elles ont dit c'est tous les chrétiens ensemble qui doivent agir et réfléchir et condamner la torture. Et donc, elles ont créé l'ACAT.
D'accord. Donc, l'ACAT, on peut dire œcuménique.
Tout à fait.
D'accord. Et donc, depuis toutes ces années, il y a des actions. Qu'est-ce qui se passe un peu dans l'ACAT? Qu'est-ce que fait l'ACAT? Combien de membres il y a dans l'association? Je suis curieux, moi, je veux tout savoir.
Il y a à peu près 7000 adhérents à l'ACAT, mais il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, soit par des dons financiers, soit en priant avec nous pour les victimes que nous recensons. L'intérêt et les actions de l'ACAT, c'est recenser des situations, les mettre au grand jour, en parler, faire du lobbying pour ces prisonniers, pour ces victimes, et après demander aux membres d'écrire à un président, d'écrire à des personnes haut placées dans les pays pour dire nous sommes au courant de cette situation et nous vous rappelons que vous avez écrit, que vous êtes engagé pour telle ou telle chose contre.
D'accord. Jeunesse, tu veux... T'as l'air tellement...
Moi, je suis à fond dans ce qu'il nous raconte. Justement, des actions vous ont mené un petit peu dans partout dans le monde entier. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur cette abolition de la torture. Parce que, je sais pas, moi, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais j'ai l'impression que, je sais pas, la torture,
dire
en 2021 quand même.
Si, ça existe toujours. Deux pays sur trois pratiquent la torture. Hein. Presque la moitié des pays dans le monde pratiquent la torture, plus ou moins ouvertement. Parce que, par exemple, on pense aux États-Unis, on se dit que c'est un pays démocratique, il ne pratique pas la torture. Si, il la pratique par pays
interposé.
Voilà, donc... Après, il y a des pays dans lesquels nous ne pouvons pas intervenir, parce que, comme la Corée du Nord, c'est un pays complètement fermé. En Chine, c'est très difficile. Donc, il y a des pays dans lesquels on n'a pas des moyens d'intervenir.
D'accord. Et du coup, concrètement, comment on agit ? Alors, tu disais de faire du lobbying, mais dans le concret de l'association, comment vous agissez ? Est-ce que vous travaillez avec... vous êtes en relation avec les autorités ? Quelles sont un peu les actions, les différentes actions qui peuvent être mises en place et que l'association met en place ?
Alors, par exemple, l'action de ce mois-ci, c'est pour une blogueuse avocate chinoise.
Oui.
Qui a documenté la pandémie à Wuhan et qui a été emprisonnée pour atteinte à la sécurité de l'État, puisque selon les autorités, elle diffusait de fausses informations. Donc pour avoir ces informations-là, c'est qu'on a des partenaires sur place de confiance qui peuvent nous dire et nous renseigner sur le détail exact de la situation. Et on peut croiser, avoir des sources fiables pour être vraiment crédible par rapport à ces partenaires-là, et on va inviter un maximum de gens à écrire. Là, en ce moment, c'est pour un diplomate en poste à Genève, pour lui dire, ben voilà, on est au courant que vous avez forcé cette dame qui était en grève de la faim à s'alimenter, vous l'avez attachée pour qu'elle en ait pas ça le truc, et on ne sait plus depuis là, février 2021, où est-ce qu'elle a été emprisonnée. Son procès a été complètement bâclé au-delà de... Il n'y a pas eu de vrai procès et elle a été quand même condamnée. Donc c'est ce type d'action de dire écrivez, parce que s'il y a suffisamment de personnes qui sont au courant et qui le signalent, ben on peut espérer que sa situation s'améliorera.
D'accord, donc vous demandez aux gens d'écrire. Donc si moi je voulais, je pourrais soutenir
totalement
l'action de la CAT. Et
déjà en parlant là et déjà en priant pour ces personnes-là et en étant au courant de ça, ben c'est aussi pour nous une manière d'agir pour aider les victimes de torture.
Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais tout le monde peut, à son niveau, agir.
En fait, il faut s'informer déjà. Donc, c'est ça la première chose. C'est-à-dire qu'à la CAT, il y a des salariés qui sont à la CAT. Il y a 25 salariés. Et qui, il y a un pôle qu'on appelle... plaidoyer, qui, donc, ce sont des salariés qui correspondent à un continent, Afrique, Asie, etc., et qui essayent de se documenter, eux, et c'est eux qui proposent ensuite, après, à nous, adhérents, aux bénévoles, de faire des actions. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Mais après, de notre côté, nous, c'est notre souci aussi de nous informer ailleurs. Hein. Donc, il y a plusieurs sources d'informations, de nous documenter, et puis d'alerter les gens qui sont autour de nous. Donc, on fait des conférences de sensibilisation, on projette des films pour faire des débats, on fait des expositions, enfin tout ce qui peut sensibiliser les personnes, quoi. Parce qu'en fait beaucoup de gens ignorent tout ça, quoi. Comme disait votre ami tout à l'heure, non, la torture c'est pas un usage du Moyen-Âge, hein, c'est tout à fait aujourd'hui. Et en plus avec le Covid, il y a eu une recrudescence, puisque il y a des gens qui étaient en prison, ben on sait pas trop ce qu'ils sont devenus, donc puisqu'il y a eu fermeture des frontières,
oui,
et tout ça.
Il y a eu un isolement encore,
voilà,
plus
encore
fort.
Encore plus grand, ouais.
Plus grand.
Et justement, là, du coup, vous êtes au cœur du Grand Kiff avec la CAT.
Oui.
Quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites auprès des jeunes du Grand Kiff, concrètement, pour les sensibiliser à cette torture ?
Alors, on a
cette
deux
lutte,
actions.
Du moins,
oui,
la torture.
Oui, voilà. Mais on est présent au village des partenaires. Donc on accueille tous ceux qui voudraient passer pour leur présenter un peu plus en détail l'association, les actions et ce qu'on fait. Et après, sur les villages, pendant les après-midi, on leur propose une activité où on essaie de leur faire devenir, de leur faire prendre conscience de qu'ils peuvent être des défenseurs des droits de l'homme, de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est un défenseur des droits de l'homme. Ben, c'est un avocat qui va défendre une cause, par exemple, au Vietnam, des étudiants qui ont manifesté pour obtenir la démocratie, pour avoir des droits. Et ben, cet avocat-là est un défenseur typique qu'on va défendre. Ça peut être au Mexique, une mère qui recherche son fils qui a disparu depuis longtemps. Et ben, en présentant ces personnes-là, en discutant de ces cas sur des pays, on fait prendre compte à ces jeunes de la possibilité de s'engager et des différents cas et des différents droits pour lesquels on doit s'engager, parce que ça nous paraît évident en France qu'on a accès à tous ces droits-là, et dans beaucoup de pays, ça ne l'est pas.
Oui, par exemple, pour prendre un autre exemple, le Pakistan, peut-être vous avez déjà entendu parler de Asia Bibi, de Malala, donc toutes ces personnes-là, quand on est femme au Pakistan, on n'a pas beaucoup de possibilités. Hein. Donc il y a des femmes qui se sont levées là, dans ce domaine et qui ont créé, par exemple, il y en a une qui a créé une association qui s'appelle Amara pour que les femmes et les jeunes filles puissent avoir accès à Internet sans être contrôlées par leur père, leur frère ou leur mari, parce qu'elles n'ont pas le droit. Donc elles n'ont pas le droit de... Parce qu'il y a même des logiciels espions qui ont été fabriqués par... Je crois que c'est la Chine qui a fabriqué le logiciel espion, que les maris, les pères ou les frères peuvent acheter pour surveiller leur sœur, leur mère, leur fille, oui, etc. Donc c'est tout ça. On essaie de le dénoncer avec ces femmes qui sont allées au combat, pour certaines qui en sont mortes, hein, quand même, hein, qui ont été... Malala, elle a failli être assassinée. Hein. Mm-hmm. Donc,
Asia Bibi. Parce qu'elle demandait l'éducation.
Ouais, pour l'éducation, oui. Mm-hmm. L'éducation des filles. Asia Bibi, vous savez qu'on connaissait son histoire.
Oui,
donc voilà, c'est, on en est encore là au Pakistan.
Ah, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas tous, mais elle a été... accusée de profanation pendant le Ramadan, parce qu'elle allait prendre de l'eau là où les
femmes musulmanes,
Et du coup elle a été emprisonnée pendant des années, il y a eu tout un combat, il y a eu un livre qui a été écrit pour la soutenir, et je crois qu'elle a été libérée avec sa famille.
Elle est au Canada.
Et donc la CAT a participé un soutien de... D'accord.
Et a médiatisé justement ce cas-là, faire une pétition en ligne, etc. Pour médiatiser, pour rendre visibles ces cas-là. D'accord. Parce que les gouvernements sont obligés d'en tenir compte quand ça prend trop d'ampleur. Quand il y a trop d'autres gouvernements, trop d'autres sociétés civiles extérieures qui sont au courant, ils ne peuvent pas l'ignorer complètement.
D'accord. Et du coup, c'est important pour vous, auprès des jeunes ici, de les sensibiliser à ça pour qu'ils soient porteurs d'un avenir plus...
Plus juste.
Plus juste.
Plus équitable, oui.
Plus digne.
Plus digne, parce qu'en fait, je pense que quand on est étudiant en France, on ne se rend pas compte que, surtout quand on est une femme, on a la chance de pouvoir aller à l'école, on a la chance de pouvoir aller au lycée, à la faculté, etc., alors que dans certains pays, c'est pas possible. En Égypte, c'est pas possible. Au Pakistan, c'est encore moins possible. En Égypte, on peut encore un peu, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de pays où c'est très compliqué pour les femmes. Bon, je suis pas féministe à tout craint, hein, je précise, mais bon, je pense que c'est important de le dire.
Hein. Du coup, j'avais une question, à moins que j'en ai sans une, mais ma question, c'était quand vous avez entendu le thème de ce grand kiff, la Terre en partage. Est-ce que ça a fait un écho justement avec ce que votre association porte, comment ça a fait quand je vois ton t-shirt, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, voilà.
Ça c'est le t-shirt de la CIMAD, donc je fais de la promo pour nos collègues et nos voisins de la CIMAD en portant leur t-shirt.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de t-shirt à 4 à porter. Non mais oui, la question de l'asile aussi est importante, c'est une des questions que nous défendons à la CAT, parce que beaucoup de personnes qui demandent l'asile ont été victimes de torture sur leur chemin et sur leur route d'exil. Donc c'est important aussi de défendre ces personnes-là quand elles arrivent en France. Donc ça, c'est un aspect qui nous rapproche de la CIMAD. Et après, pour la Terre en partage, c'est aussi le sens que nous agissons partout, quelle que soit la confession des personnes et des victimes. Mmh. Et nous agissons pour tout le monde, et tout le monde est mon frère. Et donc à ce titre-là, la Terre en partage résonne beaucoup avec notre action partout dans le monde pour les victimes que nous défendons.
D'accord. Jonas.
Et oui, j'avais une question, parce que voilà, c'est vrai que moi, je ne suis pas au Grand Kiff, je suis dans nos studios à Rouen et je me place comme les auditeurs. Moi, la question qui me vient, c'est quelle a été la réaction des jeunes ? Quelle est la réaction des jeunes quand ils vous entendent parler justement sur ce sujet d'abolition de la torture ? Comment est-ce qu'ils réagissent ?
Alors justement, on ne leur présente pas qu'est-ce qu'est la torture, on leur demande, imaginez-vous, vous êtes un défenseur des droits de l'homme au Pakistan. qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes avocat? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Est-ce que vous avez pu faire des études? Est-ce que vous pensez que ça, ça vous met en danger? C'est quoi votre combat? Et en les faisant réfléchir sur ces points-là, sur quel droit au Pakistan, quand ils commencent à nous dire, ben voilà, je suis une avocate. Ben non, une avocate, c'est peu probable, parce que si t'es une femme, t'auras pas fait des études d'avocat au Pakistan. C'est à peu près certain que t'auras pas pu le faire. Alors peut-être que si t'es franco-pakistanaise, t'as pu les faire en France, et à ce moment-là, donc les faire réfléchir à ces questions-là, c'est les faire rentrer dans la difficulté de être défenseur des droits de l'homme. Et pourquoi tu te bats? Ben, moi, si c'était Malala, c'est pour que les filles aient droit à une éducation. Et on parle d'une éducation jusqu'au collège, hein. Lycée, c'est... Voilà. C'est quel combat tu bats? Si t'es au Vietnam, c'est peut-être pour la démocratie ou pour d'autres choses. Et donc, en les faisant rentrer par là...
Pour la liberté de religion.
Voilà, c'est
aussi.
Ça, pour la liberté de religion. Donc, c'est en les faisant rentrer par ces questions-là,
oui,
qu'on va leur dire, ben là, il y a des victimes, il y a des gens qu'il faut défendre. Et donc... sans rentrer en particulier sur ce qu'est la torture. Et après, quand on débriefe avec eux, quand on leur explique, quand on parle des cas, là, on peut rajouter des cas un peu réels sur lesquels nous, on est sensibles, pour leur donner des exemples de ce que c'est un défenseur des droits réels dans les pays.
Est-ce que vous avez vu des jeunes qui ont été surpris, qui disaient « mais c'est pas possible, ça n'existe pas » ou à l'inverse, qui ont dit « ouais, j'ai envie de m'engager, ça me fait réfléchir ». Est-ce que vous avez eu des retours comme ça?
Ça n'existe pas, non, je ne pense pas qu'ils aient... Mais ils n'ont pas mesuré l'importance, disons plutôt, de ce qui existe en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mesuré que, par exemple, en Égypte, si on est chrétien, bah, c'est très compliqué. Donc, puisque par exemple, actuellement, on défend Rami Kamel, qui est un chrétien copte, et que donc, il était avocat, il avait fait... toute une documentation sur les églises brûlées en Égypte, sur les femmes qui ont été violées. Si vous voulez, c'est l'importance qu'ils ne mesurent pas. Ils savent que ça existe, mais pas aussi important, pas aussi grave, pas aussi... Donc c'est ça plutôt, je pense, dont ils ont pris conscience. Voilà. Donc,
d'accord.
Et c'est important. Hein, Après, peut-être que ça va les inviter à être plus... plus lucide sur ce qui se passe et à s'informer au bon endroit aussi, hein, parce que c'est pas évident pour s'informer.
Oui, il y a tellement d'informations de partout, dans tous les sens, que des fois c'est dur de trouver la bonne information et trouver le...
Oui, mais si on parle par exemple de la République démocratique du Congo, ça peut les toucher aussi, parce que la République démocratique du Congo, il y a un médecin, je pense que vous avez entendu parler, le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Et ben donc, c'est quelqu'un qui est encadré par les forces de sécurité pour être protégé, hein, parce qu'il ne peut plus exercer son métier sans protection, parce qu'il a dénoncé tout ce qui se passait au niveau des exactions. Donc, ça aussi, ça veut dire que suivant la profession qu'on exerce dans certains pays, on ne peut pas l'exercer, sauf si on va jusqu'au bout de ses convictions, et que dans ce cas, Mais peut-être que c'est des leçons aussi pour nous en France. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de nos convictions? Est-ce qu'on combat pour certaines choses, pour nos libertés? Enfin, y a beaucoup de choses quand même. Peut-être que vous avez aussi entendu parler de Cédric Herrou.
Ça me dit rien, ça.
Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Change ton monde ». Je pense que c'est ça qui est important, parce qu'il explique bien qu'au début, lui, adolescent, il envoyait tout en l'air, il voulait changer le monde, la société pourrie, tout ça. Puis sa mère lui a dit, écoute, avant de changer le monde, change ton monde, ta vision aussi. Et puis en fait, il s'était retiré tranquille dans la vallée de la Roya pour élever des poules, etc. Et puis un jour, sur son chemin, en retournant chez lui, il a vu, c'était de nuit, des gens qui marchaient. Et il les a pris en stop.
Mmh.
Et c'était donc des réfugiés. Et à partir de là, a commencé son histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il a eu procès sur procès.
Et ça donc, me parle.
Voilà.
Il était à la frontière italienne.
C'est ça, exactement.
Nice et tout ça. Ouais. D'accord.
Et grâce à lui, maintenant, il y a ce qu'on appelle...
Il n'y a plus de délit de solidarité, ça a été condamné.
Ouais.
On ne peut plus condamner des gens qui ont aidé de toute bonne foi des personnes en situation irrégulière.
Ouais.
Parce que sinon, on prenait des procès pour aide à personnes en situation irrégulière, comme des passeurs, et on pouvait être condamné sur sur ces peines-là. Ouais. Même si on les avait aidés gratuitement.
Oui, c'est ça. Parce qu'il les a aidés gratuitement. Hein, donc,
oui, oui, tout hein. à fait.
Voilà. Okay. Donc, même en France, il y a des choses à faire.
Oui, Jonas.
Oui, j'avais du coup une petite question sur, sur quand vous, vous faites vos actions. Je reviens un petit peu sur, sur vos actions que vous menez à la CAT. Quand ça a réussi, entre guillemets, et j'imagine que vous devez ressentir une joie immense. Quand ça évolue, racontez-nous un petit peu ces actions, quand elles vont au bout. Qu'est-ce que vous, vous ressentez comme à la fin de l'action, quand elle est terminée et réussie, on va dire?
Alors, c'est un peu difficile de se réjouir, parce que là, j'ai par exemple une des victimes qu'on présente, c'est Tran Tinh Nha, donc une blogueuse vietnamienne, qui a été emprisonnée pour avoir dénoncé ce qui se passait au Vietnam. Et on a beaucoup agi pour elle. Donc, elle a passé 4 ans en prison, quand même, au Vietnam. Et finalement, elle a été expulsée de, du Vietnam. Donc, elle est sortie de prison. On est content. On a obtenu sa libération. Mais bon, à condition qu'elle soit expulsée du Vietnam, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit d'y remettre les pieds pour y voir ses proches, etc. C'est-à-dire qu'elle est avec sa famille au Canada, mais tout le reste de sa famille un peu éloignée, etc. Elle n'a plus le droit de les voir, puisque... elle est persona non grata au Vietnam. Et une des choses qu'elle nous a dit, c'est continuer, parce que j'ai plein d'autres collègues qui sont encore dans les prisons, donc pour eux aussi, il faut continuer à agir. Donc, en fait, le travail, on est très content qu'elle ait pu être libérée et qu'elle ait pu retrouver sa famille. On n'est pas très content qu'elle puisse plus rester au Vietnam et qu'elle ait été expulsée du Vietnam. Et on n'est pas très content du fait aussi qu'il y ait encore des gens à aider au Vietnam et d'autres personnes à défendre.
De notre côté, il y a aussi Luati qu'on avait aidé angolais. Donc, lui, s'en est mieux sorti. Donc là, c'est bien, on était contents et on l'a fait venir même à Paris. Donc, il est venu nous raconter son histoire, son combat. Et c'est important pour nous, les adhérents aussi, les bénévoles, d'entendre qu'au fond, ce qu'on fait, quand même, ça porte du fruit. Quoi.
Parce que là, il y a une espèce de protection du fait d'avoir pu venir en Europe, rencontrer différentes associations qu'il avait soutenues. Il est, d'une certaine manière, un peu protégé sur place. Le gouvernement ne peut pas le faire disparaître trop facilement parce que, voilà, il y a des gens qui sont attentifs à son actualité et à comment ça se passe.
D'accord. En tout cas, j'ai un de mes auditeurs qui disait que c'était encourageant de voir... ce travail qui est fait, de voir l'engagement et la sensibilisation que vous pouvez faire. Et donc, un de nos auditeurs nous remercie, je transmets.
Merci. Hein.
Il est très heureux de savoir que vous pouvez transmettre cela auprès des jeunes.
Ben, merci. N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, de vous informer sur les réseaux sociaux de la CAT ou sur le site de la CAT. Vous avez des fiches par pays aussi qu'on essaie de tenir à jour avec les informations qu'on a pour les différentes situations.
Bah du coup, si on veut retrouver la CAT, le site
A4France.fr.
A4France.fr.
C'est difficile, ouais.
D'accord. Et donc, sur les réseaux sociaux
C'est pareil, il y a YouTube de la CAT France, un Facebook, un Snapchat, différents.
Si vous, mettez, si vous tapez A4France, de toute façon, vous tomberez.
Vous tomberez sur nos réseaux, le Twitter, etc.
D'accord. Mais en tout cas, un grand merci à vous d'avoir accepté de venir nous parler de ce que vous vivez, de ce que vous faites. Et. C'est un grand encouragement et on vous encourage à continuer et à partager cela auprès de tous ces jeunes.
Merci pour l'invitation.
Merci, oui.
C'est une grande joie. Et ben, Jonas, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour clôturer notre émission.
Oui, ça marche, pas de souci.
Allez, on écoute Présence de La Chapelle Musique et on se retrouve tout de suite après.
Tu es ma force. Ouh, 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 yeah. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi, oh. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens.
marche avec moi. Tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi.
En direct pour ce Kiff Mag. C'est déjà notre quatrième Kiff Mag depuis le début du Grand Kiff, je crois. Trois aujourd'hui, hein, hier, oui.
Mais eh ben oui.
Même cinquième oui. Avec le Before qu'on a eu avant.
Avec le Before.
Et oui. Et eh ben en tout cas, c'était encore une émission
quel
vraiment.
Plaisir, quel joie
ouais,
toujours.
C'est vrai que c'était une émission super riche, super intéressante. Chaque émission sont différentes, des jeunes qui interviennent, des partenaires qui interviennent. C'est vraiment chouette de voir tout ce qui se vit et tout ce qui se passe. Et on essaye de vous partager cette vie sur ce camp, sur le Grand Kiff. Et ben, on est très très heureux de pouvoir le faire avec vous. Alors Jonas, c'est quoi les aventures de demain?
Ah mais les aventures de demain, il y en a des belles aventures puisque vous le savez, si vous êtes un grand auditeur de JR Radio, et bien le samedi matin, c'est place à Débattons et on aura le plaisir avec Lucie de se retrouver demain matin en direct pour un Débattons inédit sur le Grand Kiff, sur le thème du Grand Kiff, la Terre en partage. On se retrouvera donc en direct dès 10h30 et attention, ce sera jusqu'à midi. Donc si vous êtes bien motivé pour venir nous écouter, et bien soyez présents demain matin de 10h30 à midi pour un débattant exceptionnel. Et puis les émissions continueront l'après-midi, Pascal, également.
Tout à fait. Et dans Débattons, nous allons essayer justement avec Lucie de trouver des invités qui vont venir nous parler de ce thème, la Terre en partage. Peut-être des membres du COPI, l'organisateur du Grand Kiff, et aussi des membres des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Voilà. Et puis d'autres invités, des jeunes. On va voir. On va organiser tout ça d'ici demain. Et puis après, dans la suite, et ben à 14h, comme aujourd'hui, le Kiff Mag avec un autre groupe. Je crois que dans le village, alors c'est le village Vent demain, ça va souffler fort. Mais je ne vous dirai pas quelle région c'est. Mais je sais, mais je ne vous dirai pas.
Ah bah alors.
Aujourd'hui, on avait le village...
Mais il n'est pas préparé.
Si, si, je sais. Tu veux que je te le dise? Non, je ne te le dirai pas.
Ah bon.
On avait le village.
Mais... Bon, bah écoute, faudra être présent demain. Du coup.
Voilà, si vous voulez savoir, qu'est-ce qui est le village Vent? Donc, on a eu le village métal aujourd'hui, Vent et Feu après-demain. Et puis, à 18h, on retrouve deux autres partenaires, membres de l'organisation, qui viendront nous parler, témoigner de ce qu'ils vivent, comme on l'a vécu ça ce soir.
Ce sera encore fort en discussion, en émotion et en partage, j'en suis sûr. On va pouvoir vivre ce grand kiff à 100%, à 10 000% et qu'est-ce que j'ai hâte d'être demain pour pouvoir continuer à discuter de tout cela et être là tous ensemble à vivre ce grand kiff, même à distance grâce à EJ Radio, c'est tout simplement génial.
Et donc, on se retrouve demain. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Les jeunes,
et puis n'oubliez pas les Kif Flash. Hein.
Et Kif Flash, de nouveau Kif Flash en train d'arriver. Donc écoutez Kif Flash le long de la journée. Et aujourd'hui, c'était tout le temps le même qui a tourné, mais on essaie d'en préparer d'autres pour vivre d'autres moments dans la journée de demain. On vous souhaite une bonne soirée. Jonas, bonne soirée.
Eh bien oui, bonne soirée à tout le monde, à tous nos amis auditeurs. Et puis on se donne rendez-vous donc demain à 10h30 pour un débattant inédit et exceptionnel. Depuis le Grand Kif, bonne soirée à tous. Pascal, on se retrouvera à 14h.
Ouais. Pour je serai là à la technique demain matin. Mais...
Oui, bah oui, mais nos auditeurs n'auront pas la joie d'entendre ta belle voix suave.
Alors, je vous laisse la place aux jeunes.
Ah, c'est bien, c'est beau. Bah, merci en tout cas pour tout ce que tu fais également pour la radio, en tous ces aspects techniques qu'on ne voit pas. Et un grand merci, et je passe le bonjour à Jean-Baptiste et à Lucie. Et donc, on vous donne rendez-vous demain à 10h30 en direct pour un débattant exceptionnel avec Lucie à mes côtés. On vous souhaite donc une très bonne soirée. Belle veillée, bonne soirée à vous au Grand Kif, à Albi. Et puis, bonne soirée à nos amis auditeurs.
Bye bye!
Bye bye, Adam.
Kif.
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 Oh, kif.
Oh oui, kif.
Kif.
Kif le mag.
Kif, le magazine Grand Kif.